Alors, en préambule, je voulais peut-être commencer par dire qu'est-ce qu'un tel dispositif fait aussi sur un chercheur ? Puisque donc je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Nantes et à l'ESP. Et je travaille donc sur ce dispositif plus de maîtres que de classes depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Auparavant, j'ai travaillé plus particulièrement sur les articulations entre la classe et le réseau d'aide, et plus spécifiquement sur les travaux des enseignants à dominante pédagogique, enseignants spécialisés, maître E. J'ai un peu décalé mon regard sur justement les collaborations et partages du travail entre un professeur des écoles et un auxiliaire de vie scolaire. J'ai ensuite travaillé sur les dispositifs d'aide personnalisés avec ma collègue de Clermont-Ferrand, Corinne Marlot, et nous continuons sur le dispositif plus de maîtres que de classes. Le dispositif plus de maîtres que de classes, c'est l'articulation qui a été faite via le département, via aussi des demandes de terrain, eh bien, a modifié le regard du chercheur et a modifié effectivement même la méthodologie du chercheur. Puisque j'ai beaucoup travaillé, ou j'ai travaillé au départ, plus particulièrement une étude sur le travail des maîtres E, des maîtres et auxiliaires de vie scolaire par exemple, et ce dispositif plus de maîtres que de classe m'a permis de modifier ma perception des choses et de travailler avec les acteurs de terrain. Du coup, deux choses sur le département du 44, eh bien le chercheur il est là au même titre que les autres dans le comité de pilotage et dans la formation, puisque ben, je suis enseignant-chercheur, mais aussi formatrice. Et ça a permis aussi, sur un autre terrain à Saint-Malo, de travailler avec les enseignants et de mettre en place un dispositif de recherche avec l'IFE, qui s'appelle le Léa, c'est un lieu d'éducation associée, et donc où nous travaillons à 2 enseignants-chercheurs avec une équipe de circonscription et des maîtres plus. Et puis avec Patrick Picard, parce que je crois qu'il n'est pas là, donc je peux le dire, on a aussi essayé de transformer toute cette réflexion pour mettre en place ce qui sera peut-être un magistère, mais qui pour le moment, Patrick vous donnera de toute façon les liens des différentes vidéos qui ont été faites et qui ont permis justement de travailler aussi en direction de la formation. Et la cascade de formation qu'a présentée Nathalie, il y avait un certain nombre d'épisodes qui ont été filmés en classe avec les maîtres plus et qui ont pu servir dans la formation de point de départ de cette formation en allant observer, analyser avec les acteurs de terrain des situations qui n'étaient pas les leurs, mais qui permettaient de commencer à réagir et à analyser ses propres pratiques et commencer à faire des catégories. Donc ça, c'est un peu l'idée qu'on avait avec Patrick pour ce magistère, qui pose un certain nombre d'autres problèmes, mais en tous les cas, le matériau est là. Et la grande qualité du travail qu'a fait Patrick de films et de montage des films est quelque chose que je tenais à souligner. Donc vous voyez qu'il y a véritablement là, et je trouve aussi important de le dire, des nouvelles dynamiques de travail qui peuvent se mettre en place entre la recherche et le terrain, mais avec le terrain, et le terrain avec les chercheurs. Donc, la première démarche, il y a 2 ans, ça a été de regarder aussi, pour ma part, ce qui pouvait être diffusé sur le web. Et Lyon m'a beaucoup servi au tout départ, puisque il y a un certain nombre de départements, d'académies, qui avaient mis des éléments en ligne. Et il y avait les premiers formats que j'avais repris sur le document de Lyon et que j'avais présenté dans un stage de formation à Paris, qui ont été repris par l'IUN de Paris, Claire Boniface, et de façon et qui là maintenant navigue un peu partout manifestement. C'était une première interrogation sur des formats d'organisation. Parce qu'en fait, vous voyez bien que le travail, c'est toujours de négocier quelque part la prescription. Et la prescription, c'était de dire, en filigrane, voilà, il y a la co-intervention. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, la co-intervention ? Et effectivement, il y a déjà des travaux qui avaient été faits et qui montrent que on ne peut pas parler. Alors que dans le premier texte sur le dispositif plus de maîtres que de classes, il est noté la co-intervention, mais la co-intervention, ça n'existe pas. Il y a une palette de formats et de formes de co-intervention. Maintenant, il y en a 6 hein, à peu près qui représente à peu près 6 formats. Bon, bien sûr, c'est un peu caricatural. Il y en a certainement plus. Hein. Il y a, mais d'abord, ce que l'on voit la première d'emblée, quand on va ensuite voir dans les classes, c'est que la plupart du temps, ça n'est pas un seul format de co-intervention qui va agir. C'est une palette déjà au sein d'une même séance de formats de co-intervention. Alors. Le démarrage a été effectivement de se dire qu'est-ce qui se passe en fait dans les classes. Donc le chercheur aussi il va dans les classes et j'ai arpenté les classes et dans mon travail bien c'est aussi d'aller essayer de puisque je ne suis pas enseignante, je ne le suis plus, d'aller bien commencer à aller au-delà en fait de ces formats de co-intervention. Alors en fait, on voit que déjà, quand on parle de format de co-intervention, il y en a 3 qui nécessitent un même espace. C'est-à-dire que forcément, le maître plus et le maître de la classe sont dans la classe. Puisque l'un enseigne et l'autre observe, donc bien au sein de la même classe, l'un enseigne et l'autre aide et passe donc dans les rangs pour aider certains des élèves dans le cours ordinaire de la classe. Et en tandem, ils sont bien l'un et l'autre face au groupe classe et donc partage le même objet d'apprentissage. Et puis, les 3 autres formats, l'espace peut être différent. L'enseignement en atelier peut se faire dans deux espaces classe différents. La même chose avec un groupe différencié. La même chose en enseignement en parallèle lorsque on divise la classe en 2. Donc, déjà là, sur les formats de co-intervention, vous voyez bien que on peut avoir un même espace, mais on peut avoir des espaces différents. Maintenant, ces co-interventions, elles sont quand même très différentes lorsque l'enseignant et le maître plus vont partager ensemble avec le même groupe d'élèves des objets de savoir communs. Donc, on n'est pas toujours d'accord sur les dénominations. Moi, j'ai nommé ça co-enseignement, c'est-à-dire que dans l'espace des interventions partagées, mais qui pourraient se faire avec des dumistes, avec des auxiliaires de vie scolaire, etc., dans cet espace d'intervention en collectif, en commun, il y en a 2, en fait, qui nécessitent de partager l'enseignement, c'est-à-dire que à 2, on va mener une séance sur les mêmes objets d'enseignement. Mais ça signifie plus précisément qu'il n'y a qu'un seul système d'enseignement principal. Il n'y a qu'un seul, dans mon jargon de didacticienne, il n'y a qu'un seul système didactique principal. Alors que quand l'espace est différent, eh bien, il y a un système qui peut être principal et un autre qui peut être auxiliaire, c'est-à-dire, par exemple, lorsque ici, il y a un enseignement qui peut être fait, par exemple, par l'enseignant, le maître de la classe, avec le groupe classe, on est bien dans le système didactique principal, et le maître plus étant ici, avec un système didactique auxiliaire, c'est-à-dire un système d'aide, par exemple. Donc là, on a une autre configuration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage du même objet d'enseignement systématiquement. Donc on va aller regarder ça plus précisément. Et là, moi, je vous propose deux situations de classe, l'une en tandem et l'autre en atelier. Je m'excuse au préalable pour ceux qui ont déjà rencontré ces deux modèles. Enfin, modèles, c'est pas des c'est le modèle pour le chercheur, hein. C'est la typographie pour le chercheur. C'est pas du tout le modèle. C'est pas, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, moi, là-dessus, je suis très claire. Je ne sais pas comment il faut faire. Maintenant, il y a en revanche un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut attirer l'attention. C'est-à-dire que ça n'est pas les formes d'organisation, ça sera, c'est ma conclusion, qui sont importantes, mais bien ce qu'on en fait. Donc je vous entraîne dans deux situations pour essayer de déceler avec vous cette question des temps et des temps didactiques, des articulations ou pas. C'est une séance à laquelle j'ai assisté à Paris dans une école de REP et où les deux enseignantes, c'est une école de 15 classes, la maître plus, ce qui a été décidé en fait en équipe, c'est que la maître plus intervenait dans la classe. Donc voilà, c'est une contrainte de départ. Alors, dans cette situation, ce jour-là, en fait, cette situation s'inscrit dans une séquence que la maître plus et la maître de classe mènent ensemble sur des comptes des origines. Donc, elles ont déjà travaillé avec cette classe de CE1 de 24 élèves sur un certain nombre de comptes des origines. Et ce matin-là, il y a le léopard qui a un nouveau compte des origines. Les deux enseignantes ont affiché au tableau la première illustration du conte et la dernière illustration, celle qui coïncide avec la fin. La question est, au départ, est-ce que nous avons le même personnage ? Ici, il y a un félin, là il y en a un autre. Est-ce que c'est le même personnage ? Donc il y a une partie orale d'argumentation et de contre-argumentation dans la classe. Qui mène certains à dire ça peut, ça ressemble bien, mais bon, quand même, il n'est pas tout à fait pareil parce qu'il a des points au bout. Et d'autres qui vont dire que oui, vraisemblablement, c'est le même personnage. La maîtresse plus va statuer, en fait, et dire que dans les contes des origines, ce que nous avons déjà vu précédemment, eh bien, le personnage du départ subit une transformation et donc c'est le même personnage à la fin. Au fil du temps, de cette séquence sur le conte des origines, à chaque fois, les débuts des contes des origines ont été listés et donc sont présents aussi au tableau ce matin-là. Les élèves auront, à écrire un court texte qui peut se résumer à une phrase, mais qui peut aller au-delà de la phrase et qui va introduire le début du conte des origines. Alors, donc les deux enseignantes sont ensemble dans la classe et que se passe-t-il ? On va voir qu'il y a des choses que ces deux enseignantes font et une spécificité aussi des rôles de chacune. C'est-à-dire que elles vont, à certains moments, être sur des positionnements très symétriques, c'est-à-dire qu'elles peuvent questionner indifféremment les élèves, elles peuvent distribuer la parole aux élèves qui la demandent. Et ça, manifestement, ça se fait assez naturellement. Maintenant, on voit aussi qu'il y a des éléments qui vont être plus spécifiques à l'un qu'à l'autre. C'est-à-dire que la maître plus, elle, au bout de la première phase orale, va réduire l'incertitude en disant c'est bien le même personnage et elle explique pourquoi. On voit aussi au fil de la séance que la maître plus va particulièrement insister sur la reformulation des élèves. ce que fait particulièrement la maître de classe, mais qui ne peut être fait que par la maître de classe, c'est-à-dire qu'elle connecte avec ce qui a déjà été fait. Puisque c'est elle qui est dans la classe et qui connaît ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire que non seulement elle rappelle ce qui a déjà été fait dans la classe, elle connecte aussi avec ce qui va être fait. Donc c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a bien de la prévision et de la planification, si je reprends les termes de Roland hier, et elle s'appuie sur la mémoire didactique de la classe. C'est-à-dire, sur ce qui a déjà été fait, elle replace le passé dans le présent. Ça signifie concrètement qu'elle leur dit, mais en découverte du monde, on a déjà travaillé sur ce type d'animal. Et là, elle fait ressurgir un lexique beaucoup plus précis. Il y en a un qui dit, ah ouais, on a travaillé sur les félins. Les félins, c'est des carnivores. Et bref, elle fait remonter un lexique qui est déjà là et déjà présent dans la classe. Donc, à la phase 3 de l'énoncé, elle va choisir et fixer les mots avec les élèves. Donc, c'est plutôt elle qui va prendre en considération cette dimension-là, puisque c'est le maître de la classe qui a la mémoire didactique. En revanche, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas une exigence partagée entre le maître de classe et la maître plus sur la précision du lexique. On voit aussi l'attention particulière qu'a la maître de classe d'organiser le tableau, parce que c'est elle aussi qui l'organise d'habitude. Donc elle sait que voilà, les mots nouveaux sont à un certain, puisque ça, ce sont des usages dans la classe. Ensuite, elles vont passer indifféremment l'une comme l'autre. Dans la transcription de l'énoncé oral à la passage de la chaîne écrite, eh bien, elles vont passer l'une comme l'autre dans les rangs pour aider les élèves. Et elles vont avoir une attention spécifique sur un certain nombre d'élèves. Et donc, c'est plutôt, en revanche, la maître plus qui va valider la phrase et qui va demander de l'enrichir en demandant aux élèves comment on pourrait compléter la phrase. Donc, on voit que il n'y a pas forcément le même type d'intervention. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait si on va regarder ça du côté d'une représentation en fait de ce qui se passe schématique, de ce qui se passe dans la classe. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être un maître ou un enseignant ? C'est de faire avancer le temps de l'apprentissage, le temps didactique de la classe. Et le maître va le faire avancer en posant des objets de savoir qui seront de plus en plus complexes. Ce qui se passe ici, c'est que bien ces objets de savoir, ils sont introduits dans la séance autant par le maître de la classe en noir que le maître plus en vert. Parfois, les objets vont être travaillés par le maître plus ou le maître de la classe. Par exemple, ici, quand elle passe dans les rangs pour aider les élèves, c'est indifféremment. Donc, on voit bien que le fait de travailler en tandem de cette manière-là, dans cette classe-là, à ce moment-là, fait que l'ensemble des élèves bénéficient du même apport et des mêmes objets de savoir. Donc, il y a un et un seul temps didactique à ce moment-là dans la classe. Ce qui veut dire que, voilà, c'est une première configuration. On a un système didactique qui est central, avec une connexion maximale, puisque le maître de la classe et le maître plus sont ensemble meneurs de jeu. Même si on voit que le maître de la classe, c'est important qu'il soit là parce qu'il est porteur de la mémoire didactique, c'est-à-dire du passé, et va aussi pouvoir projeter dans le futur, c'est-à-dire mettre aussi les élèves dans une projection, parce que ça va nous servir aussi à quelque chose dans la classe au fur et à mesure. Et le maître plus, quelque part, je dirais, j'ose le terme, c'est-à-dire qu'on voit quand même une certaine expertise didactique, puisque ce maître plus travaille éminemment les questions de récit, et donc elle est la première à le dire, c'est qu'elle a beaucoup lu sur cette question de récit. Et on voit bien que, par exemple, elle n'hésite pas à réduire l'incertitude, en disant, dans un récit, Eh bien, dans le récit des contes des origines, il y a un même personnage. Ce même personnage va avoir des transformations, etc. Donc on voit bien que même si elles mènent le jeu ensemble, si elles sont meneurs de jeu, elles vont quand même avoir des positionnements divers. Et donc, on a des objets d'apprentissage qui sont communs à tous dans le système central, et les deux enseignants s'adressent à tous les élèves, ce qui demande une coopération soutenue, et ce qui nécessite que le maître de la classe et le maître plus soient dans un même espace. Donc là, on a une première configuration en tandem. Donc, en synthèse, ce qu'on pourrait dire, c'est que il y a des échanges réguliers au sein de la séance, en cours de séance, c'est-à-dire ça permet au maître et au maître plus de se réajuster, parce que par rapport à ce qu'ils avaient imaginé, envisagé et planifié au départ, ça se passe jamais comme ça. Donc, elles discutent entre elles pour dire, bon, est-ce qu'on laisse les élèves? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on reprend ce qu'on avait planifié? Ou est-ce qu'on laisse un peu plus de temps, par exemple, à la phase orale? C'est ce qui s'est passé, par exemple, dans cette séance. On voit aussi que tous les élèves ont été sollicités et ont été mis au travail. C'est aussi la préparation en amont avec les affichages que les deux maîtresses ont faites en amont qui ont permis d'avoir les moyens pour tous les élèves d'être au travail. Ils avaient un certain nombre de mots au tableau qui leur permettait de prendre des informations nécessaires à leur écriture de phrase. Et puis, ils avaient aussi les amorces. Donc, la tâche, en fait, elle est rendue accessible. C'est une adaptation qui rend la tâche accessible à chacun. Donc, avec ces réaménagements du milieu qui ont été anticipés, avec donc les amorces et les savoirs qui sont déjà là dans la classe. Tout en disant que le maître plus montre une certaine expérience, des connaissances didactiques qui relève des nécessités lors de l'étude d'un texte narratif, et le maître de la classe qui maîtrise la mémoire didactique et donc peut réactiver les savoirs de la classe. Alors, du coup, cet espace commun, il a véritablement des avantages. C'est-à-dire ce temps didactique commun, on n'éparpille pas les élèves et les savoirs, on reste sur un savoir collectif, avec des tâches qui sont partagées par tous les élèves. Elles sont véritablement partagées par tous les élèves parce qu'elles sont rendues accessibles et elles sont rendues accessibles avec cette préparation à deux en amont et l'anticipation des obstacles potentiels. Donc ça nécessite une intervention à deux dans la classe avec des interactions en cours de séance et ce que disent ces deux enseignantes, c'est que elles sont obligées de faire attention à ce que fait l'autre. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment fait l'autre? Et ça leur ouvre des pans nouveaux dans leurs aptitudes professionnelles. Mais un espace commun, si ça a des avantages, ça a aussi des risques. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer que finalement, ça dilue quelque part la présence des élèves qui en auraient le plus besoin. C'est-à-dire que certains élèves pourraient accaparer l'attention des enseignants, alors que l'on sait que ce ne sont pas ceux qui ont le plus besoin. Il pourrait aussi y avoir, comme je le disais hier, ce travail partagé, bien des territoires qui s'empiètent. C'est-à-dire, et c'est là que peuvent naître des tensions, mais ça, Muriel l'a montré et l'a bien explicité, enfin l'a explicité en tous les cas hier à partir d'un exemple. Et on pourrait aussi avoir peut-être des temps didactiques qui évoluent séparément si le maître plus ne s'adresse pas à l'ensemble, mais uniquement à un petit groupe d'élèves. Les enseignantes nous avaient donné leur fiche de préparation et là on voit sur la fiche de préparation avec une colonne pour l'enseignante de la classe et une colonne pour l'enseignante supplémentaire que elles ont déjà noté d'emblée les attentions particulières pour certains élèves, alors que cette attention particulière en fait, quand moi j'étais observatrice de la séance, je ne l'ai pas repérée d'emblée, mais elle est bien là. Alors cette première configuration avec un seul temps didactique et un système didactique central, il pourrait être réagencé d'une autre manière. C'est-à-dire que là, elles avaient choisi de faire avancer les objets de savoir sur un même axe du temps, c'est-à-dire toujours partagé pour tous les élèves. Mais on aurait pu imaginer qu'à un certain moment, l'une ou l'autre, la maître de classe ou la maître plus, puisse travailler avec un groupe d'élèves ciblés. Si l'on sait que dans l'écriture d'un court texte, certains élèves vont être en tel décalage et malgré les aides qui sont données et qu'ils ont besoin d'une attention plus particulière, on aurait pu imaginer un système didactique auxiliaire très temporaire au sein de la séance sur peut-être 10 minutes où l'une ou l'autre aurait endossé un rôle d'aide. Mais vous voyez bien qu'on restait malgré tout connecté au même temps didactique, c'est-à-dire que la classe et le groupe sont deux institutions solidaires, puisque les objets d'apprentissage sont bien les objets d'apprentissage du groupe ciblé. Donc vous voyez qu'il peut y avoir aussi des aménagements dans la première des configurations, mais qui restent véritablement sur un système didactique central. Maintenant, quand on analyse à l'aune justement de ce temps didactique, une situation d'intervention menée en atelier par le maître plus, est-ce que il y a, quand on est dans des espaces différents, est-ce qu'il y a quand même des connexions avec ce qui se passe en classe? Là, c'est dans une des écoles de Saint-Malo, la maître plus intervient en atelier sur un groupe de mots-outils, donc d'aide aux élèves. C'est-à-dire qu'ils ont fait des groupes... c'est un système un peu particulier, je vais revenir ici, parce qu'il y a deux maîtres plus qui travaillent ensemble et un maître de classe. Donc ils ont divisé la classe en trois groupes hétérogènes. Et l'enseignante de la classe travaille sur une dictée de phrases avec des mots qui ont été travaillés dans la classe. La maître plus dont on va regarder le travail, elle mène un atelier de mots-outils qui vont servir aussi dans la dictée de mots. Et le deuxième maître plus travaille sur la phonologie, c'est-à-dire des sons qui sont en cours d'étude dans la classe. Il y a eu un travail qui a été fait en classe sur une fiche technique. Et cette fiche technique de la sorcière est reprise comme un élément du groupe mots-outils. Alors, voilà ce qui se passe à un moment, tout petit moment dans l'atelier. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait, demande la maître plus aux élèves, mardi. Qu'est-ce qu'on a fait mardi ? La sorcière. On a travaillé sur la fiche technique de la sorcière. Et qu'est-ce qu'il a fallu ? Qu'est-ce qu'elle a voulu, Sylvie ? Sylvie, c'est la maître de la classe, qu'on écrive. Les élèves disent, les mots-outils. Oui, elle voulait qu'on écrive les étapes de fabrication de la sorcière. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? On a écrit quoi ? Des mots, des petits mots, des mots-outils qui nous permettent de faire des phrases. Donc on voit ici, en fait, que l'enseignante maître plus, elle gère des discontinuités. C'est-à-dire qu'une première discontinuité, l'atelier se fait deux fois par semaine. Donc il faut reconvoquer ce qui a déjà été fait. Une seconde discontinuité, c'est que l'atelier est un moment discontinu de celui de la classe, à l'extérieur de la classe. Donc en fait, elle crée du lien en important quelque part l'enseignante de la classe. Et elle importe l'enseignante de la classe via un texte qui a été rédigé en classe. Donc elle montre de cette manière le lien qu'il y a entre l'atelier sur les mots-outils et ce qui se fait dans la classe. Et donc là, elle explicite bien que ce qu'on fait là, on vient apprendre des mots-outils, mais qui permettent de faire des phrases, et donc des phrases, par exemple, dans la fiche technique qui a été écrite en classe. Donc vous voyez que même lorsque les territoires sont séparés, il peut y avoir des liens explicites, des objets migrants, comme dirait Jeannette Tambonne, qui s'opère malgré des lieux d'exercice différents. Donc, il y a des passerelles, des objets migrants qui peuvent être pointés par l'enseignant et surtout qui sont là pour identifier un savoir commun aux deux systèmes et qui est important pour certains élèves qui ne pourront pas faire le lien entre ce qui se passe dans les multi, c'est-à-dire que certains élèves réussissent dans l'atelier à écrire les multi, et lorsqu'ils arrivent en classe, ils les écrivent d'une manière très personnelle, dirons-nous, parce qu'ils ne font pas le lien entre ce qui a été fait là, en atelier, et ce qui est fait dans la classe. Maintenant, si l'on regarde ce qui se passe, puisque tout a été filmé, la classe aussi, donc je vous ai dit dans la classe, l'enjeu était de faire écrire des phrases sous dictée. Et donc, dans l'atelier, l'enjeu est de faire mémoriser et de faire écrire des mots-outils sous dictée. Je vous ai dit que l'important de cette mettre plus, c'était de montrer qu'il y a une articulation avec ce qui se fait en classe. Donc, elle localise, il y a une mémorisation de mots-outils à partir d'un texte de la classe et elle l'explicite dans les interactions avec les élèves. On va se dire que dans la classe, lorsque l'enseignante fait écrire les phrases sous dictée, elle va faire un rappel de ces mots-outils qui ont été faits en classe. Eh bien non, elle ne le fait pas. C'est-à-dire que ni les mots-outils qui ont été travaillés dans l'atelier ne sont ni affichés ni rappelés par l'enseignante. Donc du coup, on voit une nouvelle configuration qui s'affiche. C'est-à-dire qu'il y a dans la classe le système didactique central, c'est là que font avancer les objets d'apprentissage, mais que l'atelier, quelque part, il a finalement une connexion relativement limite. Alors, une connexion limite, parce que déjà, j'aurais pu mettre une petite flèche verte, mais courte, c'est-à-dire que c'est un temps court et discontinu, mais que les apprentissages de l'atelier, s'ils sont par la maître plus réinjecté dans le système central. En revanche, la maître de la classe ne leur aménage pas un espace spécifique. Donc là, on peut dire que on a le système didactique central de la classe, mais on a l'atelier comme système didactique véritablement auxiliaire. Avec, dans ce cas précis, un maître plus qui va endosser un rôle plutôt de répétiteur-entraîneur. Alors, n'entendez pas ce que je ne dis pas. Ça vaut le coup aussi. Hein. C'est important. Mais comme il n'y a pas d'aménagement dans la classe de ce qui a été fait, ou en tout cas de diffusion réelle, de marquage réel, on peut se dire que cette connexion est en nette discontinuité. Donc, cette instance d'aide à l'étude qui est assujetti au système didactique central, qu'est la classe, peut fonctionner pour certains élèves parce qu'ils vont faire le lien intrinsèquement, tout seuls, mais ne fonctionnera peut-être pas pour certains élèves qui ne feront pas le lien tout seuls. Ce système de configuration et d'atelier, mais c'est ce dont on a un peu parlé hier, et ce que montrait aussi Roland, c'est souvent dans ce cas qu'il y a utilisation d'outils qui sont déjà là, comme Fluence, comme Tacite. Pourquoi pas? Il peut y avoir besoin à certains moments d'un système didactique auxiliaire d'entraînement, mais c'est surtout quelle place est accordée à ces apprentissages spécifiques dans le système didactique central qu'est la classe. Et souvent, ça reste implicite. C'est-à-dire que ces savoirs-là ne sont pas reconnus explicitement dans le système central qu'est la classe. Donc, dans un espace différent, il y a des avantages. Il y a des groupes qui sont plus réduits. On peut jouer sur l'homogénéité du groupe ou l'hétérogénéité du groupe. Les interactions avec un groupe plus restreint sont donc plus nombreuses. Même s'il y a beaucoup de choses à dire sur ces interactions, bon, j'ai choisi de ne pas les laisser apparaître parce que je n'ai pas le temps. Mais bon, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler. Parce que souvent, les interactions sont peut-être plus nombreuses, mais c'est à voir. Et que le groupe réduit ne fait pas que les interactions sont plus utiles. Pas forcément. Il y a moins de bruit. Et ça, c'est un élément sur lequel les enseignants que j'ai rencontrés insistent beaucoup. Donc, c'est certainement un élément de confort pour tous et de confort dans l'apprentissage. Donc, vous voyez qu'il y a des avantages. Maintenant, il y a des risques, c'est-à-dire que il n'y a pas forcément de préparation spécifique nécessaire. C'est-à-dire, on dit, toi tu fais fluent, ça peut être l'enseignant de la classe aussi. Et moi, je fais autre chose. Mais sans penser la nécessité de l'articulation entre les deux systèmes, et que du coup, eh bien, le fluence, il reste dans le système didactique auxiliaire et n'est pas reconnu dans le système didactique principal. Et donc, ça déconnecte les temps didactiques. Or, ce que peut dire, on peut mettre un S à didactique, or, ce que l'on peut dire du point de vue de la recherche, c'est que l'on sait que avec les élèves les plus fragiles, plus il va y avoir de déconnexion et moins les élèves vont pouvoir rejoindre à un moment le temps didactique principal qu'est la classe. Et que ça aussi, ça me semble un élément important, mais que Muriel aussi a montré hier, c'est-à-dire qu'on peut avoir un allongement du temps de l'enseignement. C'est-à-dire que elle disait hier que certains enseignants disent « Ouais, le maître plus, c'est bien, mais moi, j'ai plus le temps de faire ce que je faisais. » Ben forcément, c'est-à-dire que si cette enseignante-là ne prend pas en considération que les mots-outils sont appris pendant un moment de la classe avec un maître plus, que la phonologie est faite avec l'autre maître plus, et qu'elle pense qu'il est nécessaire de le refaire dans sa classe, avec l'ensemble de la classe, eh ben effectivement, on a là un allongement du temps de l'enseignement et que le maître de la classe n'a plus le temps de faire ce qu'il faisait auparavant. Donc, une des autres configurations que l'on peut trouver avec ce dédoublement des temps didactiques, avec un temps central, c'est un dédoublement du temps didactique, mais qui est différent, c'est quand, en fait, on a un dédoublement de la classe. Et qui peut être dangereux parce que souvent quand il y a des doublements de la classe en deux, on pense qu'on fait la même chose. Et ça aussi, Muriel disait, moi je suis arrivée trop tôt avec mon groupe d'élèves. Et donc l'enseignante, elle s'est dit, alors comment elle a fait elle pour y arriver aussi vite? Sans doute qu'elle a fait moins bien ou peut-être qu'elle a fait mieux. Mais c'est-à-dire que si on dédouble la classe et avec même les mêmes objets d'enseignement, on ne peut pas être sûr. Et l'enseignant peut douter de ce qui est fait dans l'autre système didactique central mené par la maître plus ou le maître plus. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est pas la même chose? Parce que les deux institutions sont désolidarisées. Et on sait qu'en désolidarisant les deux groupes, effectivement, les obstacles rencontrés par chacun des groupes, même quand les groupes sont hétérogènes, ne vont pas être les mêmes et que quelquefois, on va s'attarder sur un obstacle ici, et que cet obstacle-là ne vient pas là, et que du coup, arrivé au bout de la séance, on ne sera pas du tout au même endroit. Donc, il y a aussi une question sur qu'est-ce que ça a comme effet de désolidariser deux groupes alors qu'ils sont sur les mêmes activités. Donc, on pense que l'activité du maître plus, c'est la même que celle du maître, puisque ça a été préparé en amont, mais chacun mène le jeu dans sa totalité au sein de son espace. Et donc, il peut y avoir non plus des systèmes parallèles, mais des systèmes qui vont s'éloigner. Donc, là aussi, il y a à se questionner sur cette désolidarisation. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, bien entendu, il est nécessaire de s'interroger sur des modalités de co-intervention. Mais c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et que, tout doucement, dans le travail de recherche, dans le nôtre, eh bien, on déplace l'attention vers l'importance des connexions des temps didactiques, ce qui ne signifie pas qu'on travaille toujours en même temps au sein du même espace, mais que l'élève fragile ne peut pas effectuer le lien tout seul.